Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
C'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie Montpetit.
J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre, Derry Montpetit.
Patrick, Marie, à une semaine du vote, devinez quoi? La récession est à 50% de chance d'arriver. Est-ce une coïncidence? Est-ce la réalité? Qu'est-ce que vous, vous en pensez, Marie? Vas-y,
oh, ben,
Patrick.
Écoute.
C'est arrangé, c'est clairement arrangé. Hein? C'est les merdias qui ont planifié la récession pour faciliter la réélection de François Legault. Puis c'est le nouvel ordre mondial, le forum mécanique mondial, puis en tout cas, une chance, il faudrait aller sur le Bitcoin. Non, mais sérieusement, ça plane dans l'air depuis plusieurs mois à cause évidemment de la situation en Europe, le prix de l'énergie, l'inflation qui est difficile à contrôler. Puis tu sais, il y a une spirale de salaire, là, la pénurie de main d'œuvre, ça pousse les employeurs à payer plus cher aussi, mais à un moment donné, c'est... Fait que le danger est réel. Ceci dit, et que ça tombe bien pour M. Legault, parce que la tactique de l'épouvantail électoral, de n'importe quelle crise, récession, calamité, guerre, quoi que ce soit, c'est la plus vieille tactique depuis que les élections existent pour faire peur au monde, puis voter pour le gouvernement fort et stable et pour nous rassurer. On va voir.
C'est exactement ça. Je suis pleinement d'accord avec Patrick. T'sais, on sait qu'il y a un risque. Là. Ça fait quand même plusieurs mois, voire années, que le risque de la récession nous plane au-dessus de la tête. Une fois qu'on a dit ça, je pense que François Legault semble avoir des inquiétudes sur la participation au vote. On l'a vu aller voter hier lors du vote par anticipation, ce qui est vraiment pas commun. On sait que normalement, les chefs de parti vont voter le jour J, donc il aurait dû aller voter le 3 octobre. Moi, ce que ça me dit, là, c'est qu'il essaie d'activer les trous pour la prochaine semaine, trouver la question de l'urne. On sait qu'il a essayé d'agiter beaucoup la question de la taxe orange, du coût de la vie, de l'inflation, et là, il sort l'épouvantail un peu de la récession en disant, pour reprendre une expression bien connue, nous, on est en selle, on a les deux mains sur le volant et on sera capable de gérer la suite.
Mais d'ailleurs, la question des deux mains sur le volant a été sortie par Jean Charest en 2008 en vue de la crise financière qui se dessinait, où Jean Charest demandait à avoir une stabilité puis un gouvernement fort pour pouvoir faire face à la crise financière. Puis là, on est exactement dans la même recette, là.
Il y a deux différences, par contre, c'est que M. Charest avait déclenché des élections à peu près un mois après les élections fédérales, fait qu'il savait que, puis au mois de décembre, là, fait qu'il a fait en sorte qu'il a espéré qu'il y ait moins de participation et il s'est organisé pour que ça soit ça. Puis d'ailleurs, il a fait ça en 2012 ici, M. Charest, hein, parce que il savait qu'il y avait une contestation étudiante, fait que déclencher des élections, le retour à l'école, c'était pas l'idéal, mais bref. En 2012, ça l'a pas aidé. En 2008, ça l'a bien servi. Moi, je me demande si M. Legault est pas inquiet pour la légitimité, parce qu'on s'entend, là, il est pas menacé. Là. La seule question de savoir, c'est il va savoir ses 100 sièges ou il va plafonner à 95-96. Mais le pire scénario, je pense, pour lui présentement, c'est d'avoir un, je sais pas moi, 37, même 36% des voix, 100 sièges, puis que là, tout le monde dise, c'est absolument illégitime comme majorité, le système est complètement brisé. Et ça commencerait peut-être mal un petit peu un mandat.
Ouais, ça serait aussi difficile à dire. Tu sais, ceux qui sont pas sortis voter, qui commencent à chialer. Puis là, c'est là où tu veux chialer le 3 octobre, là, tu te prends un petit 2 heures, puis tu vas voter.
C'est pas ces gens-là qui vont chialer, ça va être les oppositions. C'est sûr, en tout cas, pour avoir été dans ces postes-là, j'entends déjà moi l'opposition officielle et les deux autres oppositions qui vont dès le 15 novembre le retour en chambre soulever la légitimité du gouvernement en place. Effectivement, il y a un pourcentage de voix qui est faible malgré un nombre important de sièges.
Ben parlons-en de ce vote par anticipation qu'on a vu. Ça avait lieu hier et ça se poursuit aujourd'hui jusqu'à 20h. Marie, qu'est-ce que ça te dit, les chiffres qui sont sortis actuellement d'Élections Québec? On parle de 12,57 %.
Ben c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut toujours faire analyser ça avec beaucoup de prudence. Mais ce qu'on voit, c'est que le taux de participation à l'heure actuelle est quand même pas mal plus élevé que lors de la dernière élection en 2018. Et là, en plus de ça, sous cette analyse-là, donc tu sais, il y avait des inquiétudes est-ce que les gens vont aller voter ou pas. Donc c'est quand même assez surprenant de voir qu'il y a une mobilisation naturelle à la première vraie journée de vote par anticipation. On voit que dans les 10 circonscriptions qui ont un taux très élevé de participation, ces circonscriptions-là, pardon, elles sont dans la région de Québec. Donc là, est-ce que c'est à comprendre que du côté de la CAQ, du côté du Parti conservateur du Québec, du côté, on dit aussi du côté de Québec solidaire, ben oui, notamment dans Jean Lesage, ça agite beaucoup et sollicite pour faire sortir son vote. Et c'est fondamental, hein, le vote par anticipation. Moi, je sais que dans mes élections de 2014-2018, ça a fait la différence parce que c'est là que c'est très, très, très important d'aller mobiliser les gens. Puis si tu me permets, Patrick, à contrario, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les 10 circonscriptions où il y a le moins de participation au vote par anticipation, c'est dans des circonscriptions montréalaises, des circonscriptions libérales. On voit que la communauté anglophone, bon, qui a de façon générale plus l'habitude d'aller voter le jour J que par anticipation, mais ce qu'on voit a priori, c'est qu'elle voterait moins qu'à l'élection de 2018 pour le moment. Avec prudence, je pense que c'est des indicateurs.
Oui. Mais ça peut faire une différence aussi parce qu'il y a des circonscriptions sur l'île qui sont quand même assez serrées. Fait que quand il y a des luttes à deux puis même à trois entre la CAQ et Québec solidaire et le Parti libéral sur l'île de Montréal, ça pourrait faire très mal s'il y a une espèce de panne de désir électoral qu'on évoquait chez les Anglos. À Québec, c'est très, très, très intéressant en effet parce que la grosse question, c'est de savoir si l'électorat, la base électorale de M. Duhaime, c'est des antisystèmes qui croient pas aux élections. Est-ce qu'ils sont assez fâchés puis mobilisés pour y aller? Et là, on sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Puis il faut le rappeler, le vote par anticipation, Marie le rappelait, puis je veux juste rappeler, c'est quand Jean Charest avait été déclaré battu avant d'être élu, finalement, puis les fameux rigueur de M. Bruneau, ben en réalité, c'est parce que le vote par anticipation était compté à la fin. Et M. Charest avait toute une machine à Sherbrooke, évidemment, puis il y avait un taux de vote par anticipation très élevé. Et c'est pour ça qu'on compte au début maintenant, pour éviter ce genre de surprise-là quand l'organisation du chef, entre autres, qui fait tout un travail.
Parlons de François Legault. Et lui, il parle aux jeunes, puis il leur dit que les jeunes, vos priorités là sont mal placées. Est-ce que ça fait encore mon oncle Legault qui parle aux jeunes de manière paternaliste?
Poser la question, c'est un peu y répondre. Puis c'est un drôle de contexte parce qu'effectivement, Monsieur Legault, qui bon, on le sait, a pas brillé par son engagement en lutte au changement climatique, se l'est fait rappeler pendant ses 4 ans de mandat, se le fait rappeler encore aujourd'hui. C'est très maladroit, je pense, d'avoir ce genre de déclaration-là où on dit que les jeunes ont des mauvaises priorités.
Combien de fois on a dit cette phrase-là pendant la campagne électorale? C'est très maladroit. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une phrase...
Oui, mais ça, c'est quand on fait preuve de prudence. Parce que j'ai plein d'autres adjectifs qui me seraient venus en tête.
Mais c'est maladroit pour qui, en même temps? C'est maladroit pour qui?
C'est maladroit pour Monsieur Legault. Puis il fait ça dans un contexte où on a une marche, tu sais, de lutte au changement, où les jeunes se mobilisent et tout. Pendant que Québec solidaire, aujourd'hui, est en train de faire un point de presse, justement, où il appelle les jeunes, les 18-35 ans, son vote à aller voter. Donc, c'est le fun, je trouve, ils se relancent l'un et l'autre.
Ouais, mais tu dis maladroit. Moi, je trouve que c'est malheureux. Je suis pas sûr que c'est maladroit parce que l'électorat de Monsieur Legault est pas mal plus âgé que l'électorat de Québec solidaire, hein. C'est sûr, là. C'est comme François Legault, il fait du mononcle splaining, là. Tu sais, c'est assez particulier. Mais moi, je vais revenir sur la manif en fin de semaine parce qu'écoute, c'était quelque chose. Qui, M. Legault, la CAQ, est-il délégué? Il est délégué le ministre qui fait semblant de l'occuper de l'environnement parce qu'on s'entend que M. Charette, ça avance pas vite. Le ministre qui dit que la pollution, on va pas mourir de ça, M. Fitzgibbon. Puis après ça, pour être sûr que le trio, son Dream Team soit complet, il envoie M. Roberge, qui est sans aucun doute le ministre le plus impopulaire du gouvernement. Là. Bon, je comprends que la ventilation est peut-être pas un enjeu.
C'est juste que le monde ne connaisse pas Pierre Dufour.
Ouais, ben en tout cas, mais sauf que c'est ça. Fait que, tu sais, si la CAQ avait voulu provoquer un incident pour pouvoir jouer avec Tim après ça, pour se regarder, c'est ça le maudit électorat de Québec solidaire, puis les jeunes, puis... Hey boy, je sais pas si c'est arrangé, là, mais...
Je sais pas à quel point c'était intelligent d'envoyer du monde à cette marche-là, parce que c'est sûr que ça allait amener des questions. Mais de toute manière, ça, c'est une décision qui revenait à la CAQ de dépêcher ou pas des ministres, des députés et des candidats. C'est pas une décision que les organisateurs ont à décider qui est assez environnementaliste pour en faire partie ou pas. C'est un sujet qui devrait transcender la ligne partisane. Sinon, parlons de la CAQ. Est-ce qu'elle fait exprès? Ben, parlons-en de l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû se garder une petite gêne puis de pas se présenter à cette manifestation-là pour ne pas se poser en victime, Marie?
Ouais, écoute, ça, c'est genre c'est damn if you do, damn if you don't, là. Je sais pas si on a un équivalent français de cette expression-là, mais de toute façon, ils auraient été blâmés de ne pas y aller. Je pense qu'ils auraient été blâmés très fort et les organisations auraient été très vocales sur le manque d'intérêt du gouvernement d'envoyer des représentants. Une fois qu'on a dit ça, bon, pour ça, je dis peut-être pas de bonne décision. Est-ce que c'est acceptable ce qui s'est passé? Certainement pas. Est-ce que c'est surprenant? Moi aussi, je voyais la réaction. J'ai trouvé ça très surprenant de leur part. Une chose que je voudrais dire aussi en aparté, ce que j'ai trouvé, là, j'utiliserai pas le mot malheureux, mais là, je vais utiliser le mot déplorable, c'est de voir. Moi, j'ai entendu dans un point de presse, Gabrielle Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, je l'ai entendu dénoncer et de dire il y a pas de place pour l'intimité. Il a évoqué le fait qu'il était pas surpris. Ben moi non plus, je suis pas surprise. Mais il a évoqué très clairement qu'il y avait pas de place pour de l'intimidation, que c'était pas acceptable. Et il s'est fait. Ça a été repris après ça justement par Benoît Charrette. Il y a eu un gros spin de ministre Kakis qui voulait dire que Gabrielle Nadeau-Dubois, un peu comme en 2012 dans les carrés rouges, j'avais pas dénoncé la violence et tout, puis j'étais comme sérieusement, on gagne tellement pas à ce genre de petite game partisane, c'est vraiment pas édifiant là.
Ça rajoute de l'eau au moulin, hein, sérieusement, parce qu'on s'est entendu que M. Fitzgibbon, là, c'est pas son ministère. C'est pas sa circonscription, il y avait zéro affaire là. Puis, tu sais, pour ceux qui suivent ça un peu plus, là, quand on va regarder, par exemple, quelqu'un comme Stéphane Gobeil, qui est dans l'entourage du premier ministre là, sur les réseaux sociaux, c'est un goon. Il donne des mises en échec, il est pas super courtois. Tu sais, Martin Koskinen est un peu plus là, mais Monsieur Gobeil, là, il ne cache pas là. C'est presque son mépris là des adversaires politiques. T'sais, il est grinçant là. Moi, en tout cas, je vais pas prêter d'intention là, mais tu sais. J'entends tout ça, là, tu traces les lignes ensemble et que ce serait pas surprenant qu'il ait cherché le trouble.
Ben, je veux quand même citer Gabrielle Nadeau-Dubois, ce qu'il a dit lors de la marche, lorsqu'il a été interpellé, et j'ouvre les guillemets. Ils ont le droit de venir dans une manifestation, mais tu gouvernes pendant 4 ans et ce qu'ils font, c'est principalement défendre le troisième lien. Je pense que c'est normal que les jeunes s'inquiètent pour l'avenir, ne soient pas très contents de les voir dans leur manifestation. Ça, c'est la phrase qu'il a dite pour ensuite tweeter. C'est un tweet. Toute forme d'intimidation, de violence ou de menace à l'intégrité physique est inadmissible, point final. Ce que j'ai vu, c'est des jeunes scander des slogans contre des politiciens. Ça m'est déjà arrivé, c'est désagréable, mais ça relève de la liberté d'expression. Alors,
on pourra faire des vérifications, mais moi, je l'ai vu, écoute, je pense même que c'était un point de presse à RDI où il l'a dit clairement parce que j'étais très attentive justement de savoir ce qu'il allait avoir comme réaction. Et il a dit verbalement, il a parlé d'intimidation, il a parlé de menaces verbales et il a dit que ça n'avait pas sa place ici aujourd'hui. Ses mots sont sortis de sa bouche, j'en suis convaincue et persuadée.
Non, mais je suis convaincue que c'est sorti, mais peut-être pas au moment de la marche. En fait, il a repris ce qu'il a dit dans son discours. Dans un autre point de presse.
Ouais, mais ça reste de la distraction quand même parce que tu sais là, ils veulent rattacher monsieur Nadeau-Dubois avec les carrés rouges là. Tu sais, ceux qui ont dit lâchez-moi avec les GES là, tu sais, c'est un candidat pour la CAQ, hein. Je suis du côté pas du côté des études, je suis du côté des gens qui sont dans leur char, tu sais. Après ça, on va le faire peu importe ce que les études disent. Je veux dire, ils s'en contrefichent de l'environnement, de l'étalement urbain, ils ont dit que c'est une coquetterie, c'était une mode là, l'identification. Fait que à un moment donné, je suis pas en train de dire que c'est correct de relancer des roches, mais je veux dire, après ça, là, faut vraiment être déconnecté rare pour penser que tu peux y aller puis dire, regardez.
Okay,
moi, je vous ai dit, là, personne ne va mourir de la pollution. C'est 4000 morts par année, la pollution atmosphérique au
Canada.
Mais
est-ce qu'on peut se permettre de soustraire des personnes qui vont probablement être portées au pouvoir de une question aussi importante que le climat, que l'environnement? Je vous poserai la question inversée. S'il y avait demain une marche pour améliorer la situation de vie des Autochtones partout au Québec, est-ce que la CAQ ne pourrait pas se présenter puisqu'elle ne reconnaît pas le racisme systémique?
Non, mais impose des actions, impose des actions. Je pense qu'on est dans deux domaines complètement différents. La réaction, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris, ce que j'en ai vu, et j'ai déjà participé à des manifestations de ce genre comme porte-parole en environnement, justement, quand j'étais élue, et on a eu droit à toutes sortes de colibets, à toutes sortes de réactions. Je pense que quand on est un gouvernement au pouvoir, puis ça, je veux dire, c'est factuel que leurs engagements et que leurs réalisations en environnement sont hautement questionnable. Je pense que ça alimente le cynisme et ça alimente une certaine frustration chez des gens qui se disent sérieusement, au moins, fait preuve un peu de retenue, tu sais, parce que là, c'est fait, OK, t'as décidé de faire dans ton agenda un acte de présence. Parfait. Mais c'est quoi tes engagements? Qu'est-ce que tu veux faire de différent? Puis, comme le disait Patrick, les engagements, les déclarations en environnement en ce moment sont pas formidables non plus. Donc, tu sais, c'est
moi, j'irais plus loin que ça, Marie. C'est parce que tu as un gouvernement qui a pointé, à date, qui a pointé les Montréalais, les immigrants, les Atikameks. Il est tout le temps en train de pointer, le gouvernement de la CAQ fait ça, M. Legault, au premier chef, toujours à pointer des ennemis, constamment, tu sais, à mettre les gens les uns contre les autres, les woke aussi. Puis on sait que chez les jeunes, là, la question de la laïcité puis de la langue, là, ils voient pas ça de la même façon. Là. Fait quand tu sous-entends que le tiers des Québécois sont des mauvais Québécois parce qu'ils ne suivent pas là-dedans, ben c'est sûr que ça finit par créer des retombées. Mais moi, je pense pas qu'on doit exclure personne, mais à un moment donné, ils sont peut-être en train de s'exclure eux-mêmes, justement, en n'ayant rien fait pendant 4 ans.
Ben, c'est s'exclure eux-mêmes, puis c'est une question de cohérence. J'en viens au commentaire par lequel on a commencé de M. Legault qui dit aux jeunes, les jeunes n'ont pas des bonnes priorités quand ils font de leur priorité l'environnement. OK, parfait. Donc ça, je comprends que c'est son avis, c'est très clair, c'est... Pourquoi envoyer des ministres marcher dans une marche sur la lutte au changement climatique? Une question de cohérence.
Sur cette question de cohérence, je vous laisse, Marie et Patrick. Je vous donne rendez-vous demain, puis on continue. Là, il nous en reste plus beaucoup. Là, on a encore 4 jours de suivi de cette campagne électorale parce que lundi, ben, les jeux seront faits. Puis mardi, on va débattre des résultats. C'est déjà la fin de cette campagne électorale mardi prochain. Patrick et Marie.